Les machines thermiques que nous avons étudiées ne mettent en jeu qu'un petit nombre de catégories de composants. Des pompes ou compresseurs qui compriment le flux de travail, des échangeurs de chaleur, chambres de combustion ou chaudières qui chauffent ou refroidissent le flux de travail, des turbines qui détendent le flux de travail en produisant du travail mécanique, des détendeurs qui détendent le flux de travail sans produire de travail mécanique. Pour chaque catégorie, bien qu'ils assurent les mêmes fonctions, des composants différents sur le plan technologique sont cependant utilisés dans les différentes machines. Nous allons, dans ce qui suit, présenter leurs principales caractéristiques. Un compresseur volumétrique se caractérise par l'encapsulation ou emprisonnement du fluide qui le traverse dans un volume fermé que l'on réduit progressivement. Un retour de ce fluide dans le sens des pressions décroissantes y est empêché par la présence d'une ou plusieurs parois mobiles. De par leur conception, les compresseurs volumétriques conviennent particulièrement bien pour traiter les débits de fluide relativement faibles, éventuellement très variables et sous des rapports de pression relativement importants. Ils sont très utilisés dans les réfrigérateurs et congélateurs. Leur principe de fonctionnement est le suivant. Une masse fixe de gaz à la pression d'aspiration P1 est emprisonnée dans une enceinte de volume variable. Pour augmenter la pression, ce volume est progressivement réduit d'une manière qui diffère selon la technique utilisée. En fin de compression, l'enceinte est mise en communication avec le circuit de refoulement pour que le gaz comprimé à la pression P2 puisse sortir. Une nouvelle masse de gaz à la pression P1 est alors aspirée dans les canalisations amont, et ainsi de suite, le fonctionnement de la machine étant cyclique. C'est le même principe que la pompe à vélo, bien connue de nombreux cyclistes, amateurs ou professionnels. Les compresseurs à piston sont des compresseurs volumétriques. Des clapets automatiques permettent la mise en communication avec les tubulures d'aspiration et de refoulement. Outre les compresseurs à piston, deux autres types de compresseurs volumétriques sont très utilisés. Les compresseurs à vis et à spirale ou scroll. Ces derniers étant aujourd'hui les plus répandus car ils présentent des avantages importants en termes de maintenance. Nous ne parlerons pas ici des compresseurs à vis. Les compresseurs scroll sont formés de deux spirales cylindriques, l'une fixe, l'autre mobile, de forme identique. La spirale mobile est animée d'un mouvement d'entraînement excentrique, ce qui permet aux deux spirales cylindriques de rouler en glissant l'une sur l'autre, en fermant des poches de gaz de volume variable. La compression est ainsi assurée. Le gaz est aspiré à la circonférence et refoulé au centre. Les avantages de ce dispositif sont l'absence de clapet, la simplicité du mécanisme et donc son faible coût et son silence, de faibles pertes mécaniques, la possibilité de tourner à des vitesses élevées, l'absence de vibration, la légèreté, la fiabilité et le faible couple résistant. Venons-en maintenant au turbocompresseur. À la différence des machines volumétriques où le fluide est enfermé dans un volume fermé, on réalise dans un turbocompresseur un écoulement continu de fluide auquel on communique de l'énergie grâce à des aubages mobiles entraînés par un rotor. Un exemple familier de turbocompresseur est un sèche-cheveux ou un aspirateur. Dans le premier cas, une petite hélice tournant à grande vitesse accélère un débit d'air qui est ensuite chauffé par des résistances électriques. Dans le second cas, l'air aspiré par la turbomachine est rejeté à l'extérieur, créant un effet d'aspiration à l'entrée de l'appareil. D'une manière générale, une turbomachine est constituée de quatre éléments en série. Tout d'abord, le convergent d'entrée grand C, ou distributeur, pièce fixe, qui a pour fonction d'orienter correctement les filets fluides à leur entrée dans la roue mobile, et de les accélérer légèrement. Le second élément est la roue mobile, RM, ou rotor, animée d'un mouvement de rotation autour d'un arbre. Cette roue comporte des aubages délimitant des canaux entre lesquels se répartit le débit de fluide. Elle communique au fluide l'énergie mécanique des aubages sous forme d'énergie cinétique, thermique et de pression. Le troisième élément est le diffuseur D, qui est un organe fixe qui a pour fonction de transformer en pression une partie de l'énergie cinétique acquise par le fluide lors de la traversée de la roue. Selon les cas, ce diffuseur peut comporter ou non des aubages. On dit qu'il est cloisonné ou lisse. Le dernier élément est la volute, grand V, fixe elle aussi, qui redresse les filets fluides sur la périphérie de la roue et les dirige vers l'aval de la turbomachine. Il existe deux principaux modes de circulation du fluide par rapport au rotor d'une turbomachine. La circulation radiale, très utilisée pour les turbocompresseurs centrifuges terrestres, notamment pour la réfrigération ou pour la suralimentation des moteurs. Le deuxième mode de circulation du fluide est la circulation axiale, presque toujours réalisée dans les turbocompresseurs d'avion. Si vous êtes intéressé, une animation située sous cette vidéo vous permet de comprendre la manière dont l'air s'écoule dans un turbocompresseur. Une turbomachine comporte fréquemment plusieurs étages. On parle alors de turbomachine multi-étagée. Dans un turbocompresseur, le guidage en amont de la roue joue un rôle secondaire par rapport à la récupération de l'énergie cinétique en sortie. On peut donc éventuellement se passer du distributeur amont. Dans une turbine à l'inverse, il est essentiel de disposer des tuyères de détente et de guidage en amont de la roue, alors que le diffuseur ne joue qu'un rôle secondaire et peut éventuellement disparaître. Les échangeurs de chaleur sont des appareils permettant de transférer de la chaleur entre deux fluides à des températures différentes. Dans la plupart des cas, les deux fluides ne sont pas en contact et le transfert s'effectue à travers une paroi. Au sein de cette paroi séparatrice, le mécanisme de transmission de la chaleur est la conduction, tandis que ce sont presque toujours les phénomènes de convection qui prédominent sur chacune des deux surfaces de contact avec les fluides. Dans un échangeur, l'écoulement des deux fluides peut s'effectuer dans de multiples dispositions relatives, parallèlement, à contre-courant, de manière croisée, etc. On peut facilement démontrer que, sur le plan thermodynamique, l'échangeur le plus performant est l'échangeur à contre-courant. Mais d'autres préoccupations que l'efficacité thermodynamique entrent en ligne de compte lorsque l'on conçoit un échangeur, comme des considérations d'encombrement, de poids ou de prix de revient. Il en résulte que les configurations des échangeurs que l'on rencontre en pratique sont relativement nombreuses. Cette figure montre les profils de température dans deux configurations d'échange, à contre-courant et à co-courant ou parallèle. On peut démontrer que, pour ces deux configurations, le flux de chaleur phi échangé entre les deux fluides est donné par cette équation de couplage. Grand A est la surface d'échange, grand K le coefficient d'échange thermique global, et delta TML, la différence de température moyenne entre les deux fluides. Comme on cherche généralement à ce que l'écart de température entre les fluides soit le plus faible possible, cette équation montre que le flux de chaleur échangé est d'autant plus important que le coefficient d'échange thermique K est élevé et que la surface d'échange est grande. Il est possible d'augmenter K en utilisant de faibles sections de passage des fluides de chaque côté de la paroi de l'échangeur, mais cela se traduit par des frottements élevés dans le fluide qui ont pour effet de générer une importante perte de pression, appelée perte de charge. Les échangeurs à tube et calandre sont très robustes et économiques. Ils sont notamment employés pour les échanges liquide-liquide ou liquide-vapeur. En énergétique, les applications de ce type d'échangeur sont nombreuses, comme la récupération thermique sur des gaz chauds ou bien les évaporateurs et condenseurs de machines frigorifiques. Un faisceau de tubes en parallèle est fixé à ses deux extrémités sur des plaques épaisses perforées et traversé par l'un des deux fluides tandis que l'autre circule à l'extérieur des tubes selon différents modes en fonction du type d'échangeur. Aux deux extrémités, des boîtes distribuent ou recueillent le fluide qui passe à l'intérieur des tubes, tandis qu'une calandre, généralement cylindrique, assure le confinement de l'autre fluide. Les échangeurs à ailettes sont utilisés lorsque l'un des fluides est un gaz et l'autre un liquide ou un fluide en train de se vaporiser ou de se liquéfier. Dans ces échangeurs, les coefficients convectifs du côté du gaz sont beaucoup plus faibles que les autres et l'adjonction d'ailettes permet d'augmenter la surface d'échange et donc de rééquilibrer l'échangeur sur le plan thermique. Les échangeurs à plaques sont composés de plaques gaufrées selon des profils variés, entre lesquels passent alternativement les deux fluides qui échangent la chaleur. Ils présentent une surface d'échange variable mais très développée, ce qui permet d'obtenir une grande compacité. Plus coûteux que les échangeurs tubulaires, ils offrent de meilleurs coefficients d'échange et ceux qui ne sont pas soudés peuvent être modifiés par changement du nombre de plaques, ce qui les rend évolutifs. Sur le plan technologique, il existe deux grandes classes de dispositifs dans lesquels sont réalisées des combustions à des fins énergétiques. Les chambres de combustion des moteurs qui réalisent une combustion interne où le carburant brûle avec le fluide de travail et les chaudières où le combustible brûle avec de l'air extérieur, la combustion étant externe par rapport au cycle thermodynamique. Les premières servent à produire des gaz de combustion à pression et température élevées qui sont ensuite détendus, par exemple dans une turbine. Les secondes réalisent simultanément dans une même enceinte la combustion et le transfert au fluide de travail de la chaleur, de la flamme et des gaz brûlés. Le schéma de cette figure représente la coupe d'une chambre de combustion du type tube de flamme, très communément rencontrée en pratique. L'air comprimé qui sort du compresseur entre dans la partie gauche. Il se scinde en deux courants. L'un qui assure le refroidissement des parois, l'autre qui pénètre directement dans la chambre de combustion où il brûle avec le combustible injecté en partie centrale. Compte tenu du faible excès d'air local, la flamme atteint dans la zone primaire une haute température jusqu'à environ 2225 degrés Celsius. Par des trous disposés à la périphérie des tubes de flamme, l'air extérieur revient se mélanger au gaz brûlé dans la zone transitoire, où la température redescend autour de 1725 degrés Celsius, puis dans la zone de dilution, où l'on cherche à réaliser un flux de gaz de température aussi stable que possible pour éviter les risques de surchauffe locale ou momentanée. Dans les chambres à barillets de tubes de flamme, 6 à 12 tubes sont montés en parallèle autour de l'axe de la turbine à gaz. Ils sont interconnectés de manière à équilibrer les pressions et permettre la propagation de l'allumage. Ces tubes de flamme sont très compacts, leurs dimensions atteignant quelques dizaines de centimètres au plus. Soumis à des flux de chaleur intenses et à de très hautes températures, les matériaux qui les composent sont des tôles d'acier réfractaires, éventuellement recouvertes de céramique. Les chaudières sont beaucoup plus volumineuses que les chambres de combustion, de par la nécessité de transférer la chaleur des fumées à un autre fluide, ce qui exige des surfaces d'échange importantes. Dans de nombreuses applications, ce fluide est de l'eau pressurisée qui se vaporise à l'intérieur de la chaudière, laquelle se comporte alors comme un triple échangeur selon que l'eau est à l'état liquide, on parle alors d'économiseur, qu'elle se vaporise dans le vaporiseur ou est portée à l'état de vapeur surchauffée dans le surchauffeur. On distingue deux grandes catégories de chaudières, dénommées d'après le fluide qui circule à l'intérieur des tubes. Les chaudières à tube de fumée et les chaudières à tube d'eau. Une chaudière à tube d'eau est composée d'un foyer où prend place la combustion conduisant à des températures de flamme de 1200 à 1500 degrés Celsius. Ces parois sont garnies de tubes d'acier lisse ou LT parcourus par de l'eau sous une pression de 50 à 180 bars. La chaleur est transmise essentiellement par rayonnement et aussi par convection. Pour que la chaleur soit transférée, il est nécessaire que la surface totale des tubes soit très grande, ce qui interdit d'utiliser des aciers nobles. Leur température de surface est limitée à environ 650 degrés Celsius. Cette figure représente deux vues en coupe d'une chaudière à vapeur à tube d'eau de la marque Carosso. La circulation de l'eau entre les deux grands réservoirs air est assurée par thermosiphon, la vaporisation prenant place dans le faisceau de tubes qui les relie. Rappelons qu'on appelle thermosiphon la circulation naturelle de l'eau dans les tubes due à la différence de température sans besoin d'une pompe. Comme les vannes et les filtres, les détendeurs sont des organes sans paroi mobile qui réalisent une baisse de pression entre l'amont et l'aval du composant, c'est-à-dire des détentes sans production de travail. Un obturateur vient fermer de manière plus ou moins étanche un orifice dans lequel débouche le fluide à haute pression. En fonction de la section de passage laissée disponible, le débit de fluide et la perte de pression peuvent être ajustés. Les détendeurs utilisés dans les machines frigorifiques peuvent être de simples tubes capillaires de diamètre 0,6 à 2,8 mm, des détendeurs thermostatiques dont l'ouverture est régulée par la température du fluide à la sortie de l'évaporateur, ou encore des détendeurs électroniques. Un détendeur thermostatique est monté sur la conduite de liquide en amont de l'évaporateur. En fonction de la charge thermique sur l'évaporateur, il régule le débit en équilibrant la pression du bulbe du côté supérieur de la membrane avec du côté opposé la pression d'évaporation à laquelle s'ajoute la pression de ressort, ce dernier permettant de régler la valeur de la surchauffe. Des animations montrant les principes constructifs et le fonctionnement des détendeurs sont fournis en piste d'approfondissement.